Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue, en effet, dans un grand débat de la presse d'une formule un peu exceptionnelle, étant donné l'invité que nous recevons ce soir. L'émission que vous regardez, je dois vous dire que ça fait près de 2 ans que nous tentons de l'organiser, et c'est seulement aujourd'hui, vous allez le comprendre très vite, qu'elle est possible. Notre invité est en effet un homme de près de 65 ans, dont 20 années passées en prison, 6 dans les prisons françaises et 14 dans les prisons algériennes. C'est un ancien adjudant de l'armée française, c'est un héros de la Deuxième Guerre mondiale à Monte Cassino. L'homme que nous recevons ce soir est un des chefs historiques de la révolution algérienne. Monsieur Ahmed Ben Bella, d'abord je veux vous remercier de nous avoir accordé, conformément à votre promesse déjà ancienne, votre première grande émission et votre première émission tout court. Rarement un homme aura soulevé autant de passion, soit hostile parce que vous symbolisiez il y a quelques décennies aux yeux d'une France qui n'avait pas accepté l'idée de l'indépendance algérienne, vous symbolisiez la révolution nationale, ou bien des passions d'enthousiasme partisan parce qu'aux yeux d'un certain nombre qui n'étaient pas tous des Algériens, vous étiez le vrai premier grand leader de l'Algérie indépendante. Nous n'allons pas refaire votre biographie, ce serait long, il serait nécessaire qu'elle soit détaillée, et j'ai plutôt envie de donner le goût à ceux que cette émission intéresse, que vos idées intéresseront, de consulter biographies et écrits qui sont déjà historiques sur vous. Cette émission, si vous me le permettez, Monsieur le Président, sera divisée en 2 parties. Première partie, témoignage sur vous-même, la révolution, le pouvoir et les années d'emprisonnement d'abord. Et puis deuxième partie, votre réflexion sur l'Algérie contemporaine, sur le tiers-monde et l'esquisse d'une réflexion que j'espère très approfondie sur le nouvel ordre mondial. Autant de questions qui vous seront posées par les journalistes qui vous reçoivent dans ce grand débat de la presse. Norbert Dalit de TF1, à qui d'abord nous devons l'organisation de cette émission, Dominique Bromberger de TF1, Yves Cuot de L'Express, Jean Daniel du Nouvel Observateur, François Luizet de France Soir et Jean-Claude Paris de TF1. Monsieur le Président Ben Bella, bonsoir, et d'abord, tout de suite le plus frais, votre libération. J'aimerais savoir qui vous l'a annoncé, comment on vous l'a annoncé, et vous y attendiez-vous depuis quand?
Ils sont arrivés vers les, je crois, 3 heures de l'après-midi, 2h30. Bon, dès qu'on annonçait que Bataille était là, et Belouchette, enfin, je me suis dit que peut-être c'était la grande nouvelle qu'on allait m'annoncer. Effectivement, on m'a tout de suite dit, voilà, c'est venu, maintenant tu vas recouvrer la liberté de tes mouvements, mais enfin, pas tout à fait, tu vas aller à Msila pour quelques temps, un très court laps de temps, enfin, et puis, bien, une décision terminera pour que tu sois entièrement libre. Et puis alors, nous avons commencé à parler, et je me rappelle très bien, c'est ma fille, une média qui était là, qui est très curieuse, qui sentait elle aussi, qui est venue tout près. Et je l'ai appelée, je lui ai dit, tu peux aller dire à maman qu'elle commence à préparer ses valises.
À votre avis, M. Ben Bella, cette libération, est-ce que c'était dans l'air? Est-ce que c'est un geste du président Chadli ou est-ce que c'est l'héritage du président Boumediene que le président Chadli a voulu assumer?
Écoutez, je ne peux pas en prononcer vraiment d'une façon définitive. Vous savez, les informations chez nous, l'information circule de la façon que vous savez. On n'est jamais sûr de rien. Mais j'avais appris que le président Boumediene allait prendre une décision. Qu'elle était, dans l'air, que cela interviendrait, mais sans autre précision. Vous savez, sans autre précision. Et puis voilà que Boumediene est malade, vous savez, il est allé en urgence. Et c'est resté comme ça, n'est-ce pas? Puis il y a eu l'élection de Chadli, et tout de suite, alors, après l'élection de Chadli, Chadli m'a fait savoir par le chef de région qu'une décision interviendrait pour ma libération.
Monsieur le Président, vous pensez que le président Chadli se sentait suffisamment fort pour vous libérer au sein de la nouvelle équipe?
Écoutez, je n'ai pas à savoir s'il se sentait suffisamment fort parce que je pense que S'il ne tenait qu'à lui, j'aurais été libre tout de suite. Or, je suis resté 2 ans encore par la suite en liberté, en résidence surveillée, n'est-ce pas? Je devais être libéré au bout de 3 mois, et puis ensuite, ça a duré finalement 2 ans. Mais je suis sûr que je dois ma libération au président Chadli.
Attendez, je n'ai pas terminé.
Et peut-être au colonel Hajj, pas peut-être, certainement au colonel Abdullah Benouchet.
Le secrétaire français, voulez-vous expliquer qui est ce colonel dont vous parlez, parce que nous ne le connaissons pas forcément.
Le colonel Benouchet, c'est celui qui était chef de la première région, donc dans la région où j'étais arrêté, et qui est maintenant contrôleur de l'armée algérienne. Certainement d'autres n'étaient pas non plus tout à fait hostiles, mais je ne saurais vraiment citer des noms avec eux.
Alors, il y a encore une histoire qu'il faut terminer d'expliquer, nous vous avons un peu interrompu. Qu'en est-il exactement de la volonté de Boumediene? A-t-il réellement voulu ou non faire un geste? Et y a-t-il une précision qui sera un jour historique là-dessus?
Écoutez, je ne sais pas, non plus, vous savez, je n'ai pas de précision. Je vous dis, je n'ai pas de certitude. Mais on m'a raconté, on m'a dit que lors de son retour de Russie, alors que Brezhnev, je pense que c'est Brezhnev qui lui a annoncé exactement ce qu'il a fait. Après, toujours la même source d'information, au retour, il aurait un moment de faiblesse, m'attendait, il serait mis, je ne sais pas, m'attendait à pleurer, et on lui aurait demandé pour quelle raison, enfin, pleurait-il. Il semble que ce soit Bouteflika qui a raconté cela, et il aurait dit, donc je regrette de n'avoir pas déjà pris la décision de libération d'Ahmed. Voilà ce qu'on a raconté. Donc, je l'ai dit, à toute fin utile, c'est un témoignage que je dois dire, bon,
est-ce que vous pensez, monsieur le président, que les pressions constantes de certains de nos amis français et l'inquiétude de l'opinion publique internationale ont pesé lourd dans les décisions du gouvernement algérien?
Oui, je pense qu'elles ont pesé. Elles ont pesé, je ne veux pas uniquement parler des pressions qui sont fait jour en France, mais un peu partout en Europe. Enfin, il y a eu des pressions en France, il y a eu Amnesty International, vous savez, qui a intervenu d'une façon très efficace, et dont je tiens ici à saluer vraiment l'effort incessant et ferme en faveur de ma libération. D'autres personnalités, d'autres organismes. Je tiens ici, malgré tout, à rendre hommage à quelqu'un, à Madeleine Véran, qui est ici, qui a été vraiment extraordinaire, de fidélité, de constance dans cette action.
Alors, je précise, Président, que Madeleine Véran est votre avocat depuis...
Elle est mon amie et elle est mon avocat depuis la libération, enfin, depuis très longtemps. Mais je tiens aussi à dire que certainement ce n'est pas parce que tous ces organismes, ces personnes, c'est partager mes idées, mais c'est une idée de l'homme qu'ils défendent, c'est une idée de l'intégrité de l'homme, tout simplement.
Enfin, si vous voulez, monsieur le président, revenons 14 ans avant ce 1er juillet 1979, le 18 juillet 1965, nous nous quittons, vous gagnez la villa jolie, il est à peu près 18h, que se passe-t-il?
Oui, ça s'est passé très simplement. À 2h du matin, des militaires sont arrivés, à la tête desquels se trouvait le colonel Zbiri, et puis ils l'ont arrêté, tout simplement. Il y a eu des coups de feu qui ont été tirés, je ne sais pour quelle raison. Et puis ils m'ont arrêté, j'étais en pyjama, ils sont montés, ils m'ont arrêté. Il n'y a pas eu de brimade, ni d'insulte, ni on m'a tout simplement dit, Ahmed, tu es arrêté. Et voilà.
Et moi,
vous avez précisé les raisons
en vous arrêtant?
Non, rien du tout, absolument rien. À ce moment-là, on ne m'a jamais, d'ailleurs, donné raison de mon arrestation, absolument, à aucun moment. Comme on n'a jamais publié un livre quelconque blanc, donc on avait annoncé, jamais, enfin, de leur discussion avec les chefs de région qui sont succédés, il y a eu Saïd Abid, vous savez, au moment du 19 juin, puis ensuite il y a eu le colonel de Rochette. Bon, jamais, enfin, on m'a bien dit qu'il s'agissait d'anarchie, etc., mais enfin... Il n'y a jamais eu de vraiment ou de pouvoir personnel, mais jamais quelque chose de très précis.
Alors, je propose, si vous voulez bien, M. Dembéla et à nos confrères, qu'on mette un peu d'ordre dans cette chronologie, parce qu'on a affaire à un homme qui a maintenant presque 65 ans, comme je le disais, à ce propos, c'est bien exact.
Je ne sais pas quel âge j'ai, je suis né présumé. Je ne sais pas,
Et surtout, je voudrais qu'on puisse suivre une certaine chronologie, parce que là, nous parlons d'un moment qui est déjà très avancé dans votre carrière. Alors, Moi, ce que j'aimerais savoir, et peut-être pourrons-nous suivre ce canevas, mes confrères et moi-même, c'est votre entrée en politique. Est-ce que je pourrais appeler votre conversion à l'homme qui est devenu? Ça s'est passé quand? Ça s'est passé
écoutez, ça s'est passé alors que j'étais très jeune. Très très jeune, il y avait 13-14 ans, je vous assure, pas plus. Je n'ai pas pris d'engagement précis, j'étais trop jeune. Mais ça s'est passé, je m'excuse de le dire, ça, on va pas croire que je remonte cela, mais il y a des choses qui restent, qui vous marquent, vous savez. Un professeur, alors que je venais de mon village, de Marnia, petit village, j'allais à Tlemcen, un professeur qui est d'ailleurs sur le plan pédagogique, sur le plan qui était très bon, qui était un adventiste, qui était un intolérant, un professeur lors de digression religieuse, alors que nous étions jeunes et que je lui disais que nous étions jeunes, qu'il n'avait pas, enfin, à toucher à nos croyances parce qu'il se permettait, il avait dit. Il m'avait répondu finalement que Mohammed était un imposteur. Ça m'a. Voilà, le jour où vraiment mon choix était fait. J'avais 13 ans, j'avais été cruellement blessé dans mes sentiments, dans mes croyances, j'étais jeune. Je pense que ça a été ce jour-là où j'ai choisi. J'ai attendu 4 ans après, à 18 ans, j'ai adhéré au PPA. Mais je vous assure, ma conversion au nationalisme, qui pour moi, le nationalisme, vous savez, ce n'est pas votre nationalisme, mais moi je ne conçois pas le nationalisme algérien comme un nationalisme, c'est un nationalisme irrigué d'islamisme, vous savez. Irrigué d'islamisme. On ne se comprendrait pas si on ne le comprend pas avec la dimension islamique. Eh bien, moi, c'est dès ce jour-là que j'ai opté.
Et bien,
vous êtes
très libéré, vous assistez de l'armée française après.
Hein?
Vous êtes quand même devenu la presse.
Ah, bien sûr, j'ai même défendu la France, j'ai juste quatre décorations, j'ai eu la médaille militaire, à titre exceptionnel mais ça, c'est une autre histoire, c'est venu après. Ce sont deux choses tout à fait différentes, vous savez. Je suis allé battre, je me suis battu pour la France. Et puis finalement, j'ai fait deux guerres. La première en 1939 et celle de Cassino, vous savez.
Au moment de l'avènement du Front Populaire, est-ce que vous avez vécu un certain nombre d'espérances qui pouvaient être un peu moins nationalistes, c'est-à-dire qui pouvaient associés dans une idée de progrès et la France et l'Algérie.
Est-ce que vous avez, hein? Oui, on a vécu ça. Je vais vous citer mon cas. J'étais à Marmia, j'étais prêt à aller m'engager dans les brigades.
Voilà.
Mais je n'étais pas du tout communiste. Mais il y a eu une explosion de d'espoir à l'avènement, c'est vrai, du Front.
Et dans cette espérance,
oui?
Je pose la question parce que c'est un peu mon cas et je crois que c'est la raison pour laquelle on m'a demandé de venir ici, puisque j'ai une enfance algérienne. J'avais des amis algériens, on disait alors musulmans,
oui.
Ou indigènes.
Oui, oui, on disait.
Oui, comme oui, vous avez, oui, vous avez des amis, oui, qui pensaient que la libération individuelle ne pouvait ne pas être détachée de la France. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore une idée de la possibilité de l'indépendance. Est-ce que vous n'avez pas vécu cette espérance qu'il puisse y avoir entre la France et l'Algérie une libération commune?
Vous savez, moi, je vous dis très franchement ce qu'était mon état d'esprit. Très vite, vous savez, l'État nord-africain a milité pour l'indépendance de l'Algérie depuis 1926. Donc, lorsque j'ai adhéré au PPA, déjà, nous étions pour l'indépendance du pays. Bon, nous n'avions pas tout à fait un projet, vous savez, très très précis de nos rapports avec la France par la suite. Nous pensions avoir des rapports normaux, mais nous étions pour l'indépendance. Et bien sûr, il y avait d'autres courants qui, par la suite, n'étaient pas encore nationalistes, qui sont devenus nationalistes par la suite, qui, eux, évidemment, militaient pour tout simplement pour l'assimilation, l'association des éléments, notamment, qui sont religieux. Vous savez qu'ils ont fait partie d'une délégation après le congrès musulman. Ils sont venus ici demander la citoyenneté française. Le cheikh Ben Badis, notamment, ça, je sais que beaucoup vont hurler de surprise, mais le cheikh Ben Badis, que je respecte beaucoup, est venu ici dans une délégation composée de communistes, d'élus indigènes à l'époque, vous savez, Farhat Abbas, et de l'élément qui venait demander la citoyenneté française avec évidemment statut musulman.
Quand ils ont vu Léon Blum?
Non, je ne pense pas. Je crois qu'ils ont vu le ministre de l'Intérieur auparavant, qu'il leur a tenu un langage très, très édifiant.
de la Saint-Denis.
Est-ce que cette époque de votre vie, de votre éveil au nationalisme, monsieur le président, vous aviez des amis français?
Vous savez, j'ai eu des amis français tout le temps. Tout le temps, à toute époque, j'ai eu des amis français, de grands amis français, et de grands amis israéliens, tout le temps, vous savez. Pour moi, ce n'était pas, vous savez, être nationaliste, ce n'était pas être anti-français, enfin contre la France. Déjà très jeune, nous faisions le départ entre le peuple de France et le pouvoir en France, je vous assure.
Monsieur le Président, quel est l'élément qui vous a fait basculer en ce temps-là en faveur de l'indépendance?
Le mouvement, c'était la situation même du pays. Écoutez, la situation même du pays. L'Algérie était une colonie, mais une colonie de colonisation. Il y avait un fait colonial qui était là. C'était la forme même de la présence de cette colonie, ses droits, sa présence, la forme que prenait cette présence, qui montrait qu'il n'était pas possible de... Ah, vous parlez de l'option pour l'indépendance? L'option de l'indépendance, elle est faite en pensant qu'il n'était pas possible de redevenir soi-même, d'opter pour cette option.
À quel moment est-on passé de ce refus, de cette révolte, à quelque chose de plus positif, qui était de vous dire « je suis algérien
». À 18 ans. À 18 ans, personnellement, je me suis dit « tu vas devenir algérien ». Je pense que tous ceux qui sont entrés dans le PPA ont fait le même choix. Parce que le PPA était pour l'indépendance de l'Algérie. Il n'a pas passé par différentes options politiques. Il a choisi l'indépendance. Or, le PPA ayant choisi l'indépendance, à l'âge de 18 ans, j'avais opté pour l'indépendance. Donc, pour l'option pour être pour la gérialité et l'indépendance du pays.
Et vous envisagiez déjà un soulèvement algérien à 18 ans?
Écoutez, à l'époque, j'envisageais personnellement que, très jeune, je pense que tous ceux qui faisaient partie du PPA, que notre action finirait par prendre un caractère de violent. Parce que, justement, la forme prise par la présence des colons, la forme de colonisation, eh bien, pour nous, il n'y avait pas d'autre moyen.
La violence était inévitable.
C'était une violence extraordinaire qui était là, en face de nous.
Alors, voilà. À votre avis, pourquoi?
Alors, 1 million et quelques Français qui étaient là, qui occupaient le terrain, qui avaient les meilleures terres, qui avaient des privilèges inouïs, extraordinaires. Comment en faire en sorte que nous récupérions notre pays, notre terre et nos droits, sinon par la violence?
Et pourquoi la décolonisation s'est mieux passée au Maroc, en Tunisie, qu'en Algérie?
C'est avec la violence, hein. Soyons précis, ça ne s'est pas passé assez, ni en souplesse, ni en Tunisie, ni au Maroc. Mais c'est la forme, justement, de l'occupation, c'est la forme de violence qui était exercée sur l'Algérie qui a déterminé la nature même de la violence qui a fait face.
Je vais poser une question d'ordre plus direct, plus personnel. Vous rentrez en Algérie en 1945, oui. Vous êtes adjudant, vous êtes décoré, oui. Vous êtes quelqu'un de glorieux qui a fait une guerre très courageuse. En 1949, vous attaquez la poste d'Oran. Oui. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 4 ans? Est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il y a un fait où quelque chose bascule? Est-ce que vous avez le sentiment d'une pression? Est-ce qu'on vous refuse un poste auquel vous auriez pu prétendre? Qu'est-ce qui vous fait basculer tout d'un coup?
Non. On ne m'a absolument rien refusé, je n'ai pas demandé quelque chose qu'on m'a refusé, je suis rentré, parce que si je voulais un poste, je l'avais à l'Olympique de Marseille, j'étais très bien payé, j'avais un avenir, croyez-moi, certain, je jouais bien pour ça.
C'était l'époque où vous étiez joué?
Oui, j'étais demi-centre de l'Olympique de Marseille, on m'avait proposé un contrat, alors vous savez, quel poste? Demandant un poste de garde-champêtre ou un poste de... Je n'avais pas encore. J'avais un poste de trouver à Marseille. Bon, je sais qu'il y a une version, on m'aurait refusé un poste, je ne sais pas quel poste. Bon. J'étais d'autre part, le colonel du régiment m'avait proposé de m'envoyer, je m'excuse de parler un peu de cette période, mais j'étais un soldat qui avait des titres de noblesse un peu spécial. J'avais j'étais décoré 4 fois, lors de l'armée 2 ou 3 fois, j'avais une médaille militaire, et le colonel m'avait proposé d'aller à Cherchel, de passer 6 mois, de sortir le lieutenant.
Donc, j'ai refusé. Le colonel ne me comprenait pas pourquoi je refusais. Mais voilà ce qui s'est passé avant. Rappelez-vous. En 1942, les Américains débarquent, les Alliés débarquent. Et je suis appelé 6 mois en retard. Je suis appelé au 6e tireur à Jean Tlemcen. Bon. Et tout de suite, un dossier est arrivé, horriblement dangereux, on verse dans le tabord. Dans les troupes marocaines, vous devinez pourquoi. Bon, je vais dans les troupes marocaines, je rejoins mon régiment à Ré Salabo, le capitaine de Villecourt qui est devenu général, qui est un homme très bien, me reçoit, me dit votre dossier là, je sais ce que vous êtes, mais je ne veux pas en tenir compte. Permettez-moi une seule chose, nous allons nous battre, vous allez vous battre. Vous n'allez pas, les Marocains, essayer de, etc. Parce que d'ailleurs, ce sont des Marocains, comme vous ne comprendrez pas, et puis nous sommes en état de guerre. Voilà, je ne le permettrai pas. Je dis non, je n'ai pas à faire de propagande auprès des Marocains, et je vais me battre. Et nous sommes devenus très amis dès ce moment-là. Je me suis bien battu. Je suis allé, je me suis bien battu. J'étais, je vous assure, je me suis bien battu. Et tous ceux qui étaient avec moi se sont bien battus. Ils se sont si bien battus que lorsqu'ils allaient dans les hôpitaux militaires, ils refusaient de rester là-bas, parce qu'il faut connaître les Marocains. Les Marocains vivent en famille, même dans une compagnie, alors que d'autres allaient pour rester 2 mois, 3 mois. Nous sommes bien battus. Mais c'est alors que nous revenions, bien, nous apprenons qu'à ce type, qu'à Guelma, et qu'à 45 000 ou 40 000, je ne veux pas discuter sur les chiffres, enfin, des dizaines de milliers de nôtres ont été fauchés le jour anniversaire de la guerre. Alors voilà. Moi, pour moi, dès ce moment, je me suis dit, j'emploierai la force. Parce que le reste, ça n'existe pas. Devant ce feu qui est devant nous, il n'y a qu'une seule façon. C'est de se lutter et de lutter les armes à la main pour effacer cette réalité.
Alors, on va avancer un peu dans cette évocation et ces précisions sur votre rôle. Il y a un autre point très intéressant qui concerne les années 56 à 62. Je voudrais savoir quel a été votre rôle exact. Et comment vous avez pu, particulièrement d'une prison, diriger la résistance?
Non, je n'ai rien dirigé. De 56 à 62, j'étais dans les prisons de France. J'avais un contact avec nos amis qui étaient à l'extérieur, mais je n'ai rien dirigé. J'étais même un peu mis en marge de l'action de la Révolution, parce que déjà à l'époque, des problèmes s'étaient posés, à Dan, etc.
C'est pourtant vous qui symbolisiez le...
Oui, je symbolisais. Vous savez, je vais vous dire très sincèrement, de la presse française et un peu dans le monde, vous savez, j'étais le chef de la Révolution algérienne. Il faut rectifier un peu ça. J'étais un des chefs. Je n'étais pas le chef. J'étais un des chefs. Vous savez, d'autant plus que nous sortions d'une expérience, vous savez, Messali, etc., et nous ne voulions pas que quelqu'un symbolise à lui seul. Bon, le rêve de chacun, de l'un ou de l'autre, ça, vous savez, je préfère personnellement laisser l'histoire, elle le dira un jour, vous savez, l'histoire, c'est toujours, hein, son mot là-dessus, et tranche définitivement. J'ai eu un rôle donc que je laisse l'autre. Mais j'étais un des responsables, tout simplement.
C'est quand même à vous, par exemple, que le général de Gaulle, dans une conférence de presse, dans un style qui lui était bien particulier, personne n'ayant demandé de vos nouvelles, a dit « Il me semble que quelqu'un me pose une question et des nouvelles de M. Benbella. » Et là-dessus, il a donné des précisions sur votre santé. Oui. Bon, alors c'était tout de même un symbole. Vous étiez le symbole.
Oui, j'étais l'un des symboles. Je ne pense pas que j'étais le seul symbole. Mon nom, bon, a été prononcé plus que celui d'autre, mais dans les faits, je n'ai pas été le chef de la Révolution.
Aucun rôle actif de votre prison?
Ah oui, j'ai eu des rôles, bien sûr, mais je préfère ne rien dire là-dessus, je ne pense pas.
Ah, c'est dommage, parce que maintenant, ça appartient à l'histoire.
Oui, vous savez, bon, il y a des choses que je préfère laisser à l'avenir, il y a des choses qui touchent à certaines personnes. Non, après ça, je devais me sauver une ou deux fois, vous savez. Là, je ne vais pas vous parler comment...
Est-ce que certains de vos co-détenus n'ont pas un petit peu souffert et ne vous ont pas reproché la védétarisation
dont vous étiez... Je ne l'avais pas jamais cherché, j'étais en prison. Comment voulez-vous que je cherche la
védétarisation? Vous étiez en prison au moment du 13 mai. Vous avez été au courant de tout ce qui a pu se passer à ce moment-là en Algérie. Est-ce que vous n'avez pas eu peur?
Non, je vais vous donner un secret. Le 13 mai, des hommes de la gauche sont venus, vous savez, sont venus me demander à l'intérieur un certain nombre de choses. Alors, on avait proposé de nous sortir et de créer un front démocratique contre la réaction. Et j'avais proposé personnellement de prendre les choses en main auprès de l'immigration algérienne et de mener, et j'affirmais qu'il était possible de faire échouer ce mouvement.
Et pourquoi ça
nous a... Mais malheureusement, on nous a demandé de faire des déclarations. Donc nous étions emprisonnés, mais on n'a pas accepté de nous faire ça.
Quels sont vos rapports exacts, ou plutôt quel rapport, quel contact, quel lien avez-vous entretenu avec le général de Gaulle?
Avec le général de Gaulle, des contacts, vous savez, le général de Gaulle, bon, je l'ai connu lorsqu'il est venu en Italie décorer exceptionnellement quelques officiers, n'est-ce pas? C'est lui qui m'a décoré.
Oui. Première rencontre.
Non, une première rencontre. Ensuite, la seconde rencontre, ce fut lorsque je suis allé en visite en Yougoslavie. Qu'au retour, nous nous sommes vus au château de Mars, je crois.
Le champ de Mars.
C'est ça. Oui, je crois que c'est lié d'avoir une affaire de...
Oui.
Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez...
Attends, d'abord, on poursuit. Oui, voilà.
Personne n'a jamais raconté exactement comment ça s'est passé.
Ça s'est passé très simplement. Je suis venu par un hélicoptère, je me suis arrêté au château. Le général était là, nous étions seuls. Bon, nous avons commencé un peu à parler d'une façon un peu raide. Et puis au bout de 10 minutes, ça a été fini. Nous parlions comme je vais essayer de vous amener. Exactement.
Je peux bien le croire, mais de quoi vous parliez?
Nous parlions de politique, évidemment, nous parlions de... Qu'est-ce que vous voulez? On n'avait pas parlé de football, il ne savait pas jouer au football. Nous parlions de politique, on parlait de l'Algérie, je me rappelle fort bien lui avoir dit, l'Algérie, il y a les accords d'avion, etc., mais nous souhaiterions qu'à Merzel-Kibir, vous évacuez un peu plus vite, enfin plus rapidement que le prescrivent les accords. Et j'avais émis une proposition, c'est que Merzel-Kibir devienne un chantier naval, avec coopération française. Il m'avait dit c'est une très bonne idée, et puis nous allons... Et c'est effectivement, la France a évacué. Et puis l'évacuation plus rapide des troupes françaises qui étaient, vous savez, stationnées en Algérie, effectivement. À cet égard, je voudrais dire une petite chose qui est intéressante. Vous savez qui était le chef de l'armée algérienne? Lorsque j'étais président de la République, le capitaine de Villecourt, mon capitaine de compagnie, vous savez, auquel j'avais sauvé la vie à 2 reprises, à Cassino. Donc c'est lui qui était général de l'armée française.
Est-il exact, monsieur
Bédard? À cette époque, je vous assure, l'armée française ne s'est jamais aussi bien conduite que lors des évacuations. Elle avait évacué le Maroc, la Tunisie. Mais je vous assure, il y avait eu des problèmes. Mais nous n'avons jamais eu à déclarer un incident entre l'armée algérienne et l'armée française avant qu'elle ne...
Est-il exact que le général de Gaulle a dit de vous, ce type-là, il ne nous veut pas de mal?
Oui, c'est ce qu'on m'a rapporté, effectivement. Nous avions parlé très franchement, et je vous dis, nous avons parlé de l'Amérique, des blocs, etc. Et le général de Gaulle m'avait dit, nous voulons une Algérie forte. Et j'avais dit, nous voulons une France forte.
Est-ce que c'est au cours de cette conversation de champ qu'il avait été question des expériences atomiques françaises au Sahara?
Non, on n'en a pas parlé du tout. Vous savez, ça, cette expérience, c'est, vous savez, les accords de vie, on le stipulait, hein? Je passais à l'époque pour être hostile aux accords de vie. J'avais été hostile aux premières dispositions, c'est une autre histoire. Vous savez, les premiers accords de vie, ce n'était pas les accords, vous savez, qui avaient été signés. Et ça, j'avais refusé de donner ma caution à cela, si vous comprenez. C'est l'Algérie, les premiers accords d'avion stipulaient que la route nationale à Londres, à Tlemcen, et bien une bonne partie jusqu'à RAL, faisait partie de la zone de Merzel-Kibir. Et d'autres dispositions que personnellement j'estimais.
Monsieur le Président, vous parlez de problèmes d'ordre plutôt technique, mais on a du mal à imaginer que vous, le général de Gaulle, au cours de cette rencontre de champ, vous n'ayez pas un petit peu évoqué ce que seraient les rapports.
Mais
vous
n'avez pas laissé malheureusement terminer. Moi, je veux bien. Je voulais vous dire que déjà, nous évoquions la stratégie politique mondiale. La France voulait jouer un rôle. La France voulait vraiment jouer un rôle indépendant. Enfin, au dire du général de Gaulle, et je le crois, je le dis très sincèrement, je le crois. Il voulait une France, mais il voulait que l'Algérie l'aide, parce que l'Algérie, à ses yeux, devait jouer un rôle très important dans le monde. Et effectivement, l'Algérie a joué un rôle important dans le monde. Et l'Algérie était d'accord pour cela. Je vais vous dire autre chose. Il m'avait demandé, à l'époque, vous savez, le monde arabe était en rupture avec... Enfin, les relations étaient complètement coupées entre la France et les pays arabes. Il m'avait demandé si les rapports pouvaient être renoués entre l'Égypte et la France avec le Mondial. J'avais dit, mais c'est très facile. J'avais des rapports très avec le football. J'ai dit, mais en 24 ans, tu fais cela. Je m'appelle ma vie, monsieur le président. Ce n'est pas un peu trop court. Je ne vais pas
mettre ça. Il voulait que ça se fasse donc
En 2 heures, je suis rentré, j'ai téléphoné à ma soeur. Ma soeur m'a dit, non seulement je me renouais, mais je m'invite à venir en visite officielle en Égypte.
Vous aviez proposé ça à De Gaulle?
Oui, De Gaulle m'avait demandé de renouer la rapport diplomatique avec. Et je lui avais dit, mais ça peut se faire en 24 heures. Il m'avait dit, mais vous ne pensez pas que c'est un peu court. Et en retour à Alger, j'ai téléphoné à ma soeur l'a invité. Et ce n'était pas passé 12 heures. Yeah. Je me rappelle, là, je lui avais répondu.
Monsieur le Président, dernier point sur la rencontre de Champs. Oui, est-il exact, comme on l'avait dit à l'époque, que qu'une visite officielle de votre part était envisagée en France à cette époque-là?
Oui, absolument. Je devais venir en France pour signer le fameux accord pétrolier qui devait, justement, qui était des accords tout à fait nouveaux, hein, qui créaient une brèche dans le bloc, enfin, du lobby pétrolier. Je me rappelle, il m'avait dit autre chose aussi, je le dis. Il m'avait dit d'aider les Canadiens. Et je les ai aidés. Le Canadien français.
Il y a un autre point tout à fait intéressant également. Alors, vous prenez le pouvoir, vous dirigez l'Algérie, vous développez une politique extérieure, vous maintenez ou essayez de nouer des rapports plus étroits avec la France, et puis tout d'un coup, le 19 juin 1975, l'homme qui vous avait aidé à vous installer vous balaye du pouvoir, c'est le coup d'État. Vous l'avez raconté tout à l'heure. Je voudrais savoir si vous avez une analyse sur les raisons de ce coup d'État qui vous a fait perdre le pouvoir.
Ce n'est pas, vous savez, une analyse simpliste. Moi, je pense que le coup d'État du 19 juin, il faut l'insérer dans une analyse plus large. Il y a eu le coup d'État du 19 juin, mais il y a eu 24 coups d'État ou 23 coups d'État en Afrique par la suite.
Oui.
Nkrumah a été renversé, Modibo Keïta a été renversé, Sokarno a été renversé, Obote a été renversé, et puis d'autres aussi, à Brazzaville et ailleurs. Le 19 juin n'a pas été le seul coup d'État.
J'ai dit le 1975 et c'était 65 qu'il fallait comprendre.
65.
Merci.
Et une série de coups d'État qui sont. Alors, mon explication est la voici, vous savez. Le problème n'est pas celui de l'Algérie. Le problème de l'Algérie, sont les problèmes du tiers-monde. Mais les problèmes du tiers-monde sont des problèmes d'un système, c'est l'ordre mondial qui existe, qui régit nos destinées. Nous avons récupéré notre indépendance. Nous avons, pour l'Algérie, pour nous, Algériens, nous avons récupéré le drapeau, nous avons récupéré un mime, Kassamim. Nous avons récupéré un territoire, mais nous n'avons pas récupéré les constituants de la vraie indépendance. Il y a des rapports qui existent entre le centre et la périphérie, il y a des rapports structurels. La subordination, la suggestion, c'est ça, et l'aliénation culturelle, en fin de compte, ces problèmes n'ont pas été réglés par l'acte des vieux ni par la proclamation de l'indépendance, par un vote qui nous a fait récupérer notre territoire et nous a attribué quelques éléments, quelques constituant de cette indépendance. Alors, je pense que ce régime, de toute façon, était condamné. Ce n'est pas... Il y aurait eu Bendien n'aurait pas été là, un autre Bendien aurait été là, comme quelqu'un s'est trouvé pour Sokarno, pour Nkrumah, pour etc. Voilà. Il y a la problématique du centre, de la périphérie, du système tel qu'il fonctionne et des rapports qui lient avec le reste du pays. Alors, je dis très sincèrement, le régime de Mbella n'avait pas, vous savez, de toute façon, il devait mourir.
Pourquoi?
Simplement parce que ça dérange.
Monsieur le Président, j'aimerais quand même vous poser une question. Vous avez été au pouvoir de 62 à 65.
Oui.
Cette période a été marquée par un activisme révolutionnaire que certains ont qualifié parfois d'un petit peu brouillon, d'autres d'extrêmement militant. Et vous avez eu le temps de penser longuement à tout ça. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu de regret en pensant aux chances qui ont ou qui auraient été peut-être perdues à cette époque-là, pensant à la façon dont vous avez nationalisé, par exemple, d'un seul coup, les dernières terres de colonisation française, dont vous avez écarté les modérés, comme Ferhat Abbas, comme Abderrahman Farès.
J'ai des regrets, mais pas cela, n'est-ce pas? J'ai des regrets, je suis un révolutionnaire, toute ma vie a été cela, j'étais un militant révolutionnaire. Dans le cours de cette lutte, j'ai eu à m'opposer, et notre parti a eu à s'opposer à d'autres courants politiques, réformistes, et la période qui a précédé le 1er novembre a été caractérisée par vraiment une lutte vraiment féroce entre les mouvements nationalistes, mais même à l'intérieur du courant du parti dans lequel j'étais. Et finalement, j'étais responsable de l'organisation spéciale de ce parti, qui était destiné à agir d'une façon. Et nous avons connu des drames. Personnellement, j'ai été arrêté, mon organisme a été dissous dès que j'ai été arrêté, par cette tendance réformiste. Qui ne voulait pas, qui croyait qu'avec le bulletin de vote, on y arriverait. Et les erreurs, personnellement, si j'ai pu faire une erreur, c'est de n'avoir pas été plus loin que ce que j'ai fait, de n'avoir pas tiré, était logique avec mon action. C'est-à-dire de n'avoir pas, par exemple, armé le peuple, de n'avoir pas, par exemple, à la faveur des décrets de mars, et bien à faveur des branles qui a été donné, de l'immense élan qui a été donné, et bien de n'avoir pas organiser ce mouvement et d'avoir un peu oublié les superstitieux qui étaient à eux,
ils pensaient qu'il
fallait armer le peuple. Alors là, j'étais arrêté par le danger de mon parti. J'ai réfléchi. Et j'étais arrêté par la sacralisation du parti unique. Parce qu'à l'époque, nous n'avions pas, vous savez, les études que nous avons maintenant. Maintenant, je dis le parti unique, je l'ai dit dans mes écrits, c'est le mal unique, vraiment, c'est le mal unique. C'est une calamité. Mais on peut en prendre, c'est là-dessus. Au lendemain de l'indépendance, nous avions le FLN, c'était un instrument extraordinaire, vous savez, c'était. Dès qu'il était que le FLN ne sait rien, je n'avais pas. Les écrits, je n'avais pas la connaissance, je n'avais pas les données que j'ai maintenant pour dire le parti unique, seulement unique. Si j'avais eu ces éléments-là, je vous assure, je l'aurais fait sans ça.
Alors, M. le Président, il y a.
Ce n'est pas en revenant à Fares, vous savez, à des cadavres politiques qu'on aurait pu faire.
Quand vous dites,
je vous regarde infiniment.
Quand vous dites que vous souhaitez armer le peuple, vous voulez dire que c'est l'armée qui vous a mis à la porte et qu'il a peut-être fallu un contrepoids à cette armée.
Le 19 juin.
Oui. En fait, parce que de l'armée, vous avez
oui, exactement, c'est l'armée, ce n'est pas l'armée. Je vais vous dire très franchement, parce que je dis là, ce n'est pas toute l'armée, c'est 35-40 grands responsables de l'armée. Parce que l'autre armée n'était pas.
Hein? Ça suffit peut-être pour mettre en route une armée.
Oui, alors là, ça nous fait revenir à autre chose. Vous savez, au sein de la Révolution, malheureusement, il y a eu une dégradation. Depuis 1956, pour moi, la Révolution, on l'avait mis sur le voie de l'argent. Tout simplement.
Mais il y a une opération. Vous aviez un très beau slogan qui était la révolution sans prison. Or, un beau jour de 63, en septembre, si mes souvenirs sont exacts, vous avez fait arrêter Boudiaf.
Oui.
Par la suite, il y a eu beaucoup d'autres arrestations et la révolution a un petit peu changé. Pourquoi à l'époque?
Oui, écoutez, je vais vous dire ceci. Hein. Une révolution sans prison, un pays sans prison, je vous ai bien indiqué, ça se trouve hein, depuis le monde est même. Mais franchement, on ne peut pas dire que l'Algérie est à l'époque, une Algérie de prison, mais que le pouvoir était un pouvoir violent. Vous savez, je n'avais pas personnellement, j'avais un contact permanent avec les masses, je n'avais même pas de garde à la ville d'Algérie, j'avais deux gardes, vous savez très bien. Et aussi bien le style du pouvoir n'était pas celui d'un pouvoir tyrannique, d'un pouvoir violent. C'était un pouvoir populaire qui était accepté par les masses, je pense, je le dis qui est accepté par la majorité des Algériens. Et ce n'est pas un pouvoir violent. Il y a eu des arrestations, il y a eu celle de Boudiaf, il y a eu celle de Boudiaf et Paty, enfin, il y a eu celle de Daïd dans d'autres circonstances, mais on ne peut pas dire que le pouvoir est un pouvoir violent.
Alors si vous voulez bien, nous sommes ensemble depuis maintenant pas mal de temps, déjà près de 40 minutes. Je voudrais, si vous voulez bien, Jean-Daniel, qu'on arrive à la partie de la vie du président Ben Bella en prison. Parce que, pour vous dire tout attraque les choses, comme aurait dit votre interlocuteur.
Simplement ceci. Écoutez, non, c'est un beau sujet, je ne veux pas l'éviter, vous savez. Notre ami pose un problème un peu méchant, mais ça ne me dérange pas, je préfère.
Non,
mais c'est vrai, il faut parler franchement. Pourquoi? Parce que ce sont des accusations qui ont été portées. Vous savez, un pouvoir violent, c'est un pouvoir qui fait couler le sang. Je veux bien qu'on me dise combien, enfin, de personnes ont été tuées en Algérie, je ne parle pas de la crise. De Wilaya, etc. Bon, c'est ça. Mais enfin, les personnes arrêtées, exécutées, etc. Je voudrais bien qu'on le sache. Bon. Ce pouvoir, le sang, ce n'a pas été la caractéristique essentielle de ce pouvoir. Au contraire, nous, lors de l'indépendance, toutes les contradictions de la révolution se sont posées. Nous avons eu des problèmes de Wilaya, par exemple, des problèmes extraordinaires. Vous savez, quand vous parlez de cela, je préfère un peu aussi attaquer personnellement. Vous m'excuserez. Vous nous avez laissé un pays mineur, complètement exempté.
Oui, si vous permettez, Monsieur, je vais dire deux mots là-dessus.
Vous nous avez laissé un pays exempté, un pays avec 4 millions d'Algériens qui sortaient des comptes de regroupement. 500 000 Algériens qui revenaient de Tunisie et de Maroc. 90 000 détenus. Pas même des moyens de traction pour faire de la démarche. Je m'excuse, pardon. Pas de mulets. Parce qu'on tirait sur tout ce qui bouge dans les opérations précieuses. Et pas une usine ouverte. Et tous les dégâts de l'AS, lors de la. Et contre les ordres de guerre, là je vous pose la question, combien le général de Gaulle m'a laissé pour le GSP? 1,5 milliard de quoi vivre 6 jours. Voilà. Le bilan, c'est-à-dire que vous devez d'abord savoir avant de toute chose. Et l'aide qu'on nous fournissait au début, on nous la fournissait tous les 15 jours.
Je m'excuse de vous dire ça, monsieur le Président.
Non, vous allez quand même
un peu fort, parce que malgré les destructions horribles des derniers feux de l'OAS, malgré la guerre, malgré les conditions du départ des pieds noirs, la Mitidja, quand vous avez pris le pouvoir, c'était quand même pas mal, le Téloranais, c'était pas mal, et il n'y avait pas simplement un pays dévasté.
La Mitidja n'était pas mal, mais 1 500 000 Algériens liquidés, c'était pas mal aussi, vous comprenez? C'était pas mal. Hein? Le 4 millions d'Algériens qui sortaient de peines de regroupement sans avoir de quoi manger, 500 000 qui revenaient de Tunisie et Maroc et 90 000 prisonniers, ce n'était pas mal aussi. Bon, nous avions la Mitidja, mais nous n'avions pas le cadre, nous n'avions pas, nous a laissé effectivement une base, Mais que représentait cette base avec les moyens qu'on possédait de l'Algérie, avec les moyens financiers qu'elle possédait, 9 milliards et demi, je précise. 8 milliards et 9 milliards et 8 milliards. En fait, de quoi manger ces jours? J'ai fait mes comptes à l'époque, nous avons de quoi manger ces jours.
Alors, je vous ai précisé que nous sommes ensemble depuis près de 3/4 d'heure maintenant, et je vois qu'on avance, car il nous reste une deuxième partie à établir, qui est votre réflexion sur le tiers-monde. Qu'on termine cette première partie pour évoquer ce qui s'est passé en prison. Alors, ce qui s'est passé, d'un mot, vous allez nous écrire si vous le voulez bien.
Bon, j'ai passé quelques 14 années en prison.
Dans la même prison?
Non, pas dans la même prison. Au début, j'étais évacué tous les 2 mois environ, de changer en permanence pour des raisons de sécurité après la vitesse du jetant à l'heure. Mais j'ai bu 2 années et demie. Et finalement, après une grève de la faim, je suis resté à Douéra. Une maison, dans une maison de style arabe, c'est mauresque, mais qui avait servi de détention, des maisons de détention pour ce qu'on appelait les intellectuels à l'époque, vous savez. C'est là qu'on m'a mis, et je ne suis plus, je n'ai plus bougé de là. C'est pratiquement de 1958 à. Jusqu'au moment où je suis sorti.
Monsieur Bendela, comment s'est passée une journée en prison? C'était une vie régulière? Vous étiez enfermé, vous aviez des journaux?
Et alors, il y a eu 2 périodes, vous savez, dans ma vie en prison. J'ai eu une période qui est allée de 65 à 1971. Ça a été la période d'isolement, alors total, vous savez, tout seul, face à un mur.
Vous aviez peur d'être liquidé?
Vous savez, on a toujours peur. On a toujours peur, mais enfin. Est-ce qu'on s'habitue à ça, et puis vous savez, j'ai mené une vie.
On a essayé de le faire.
Je préfère ne pas parler de cela dans cette émission.
On n'a pas le droit de faire ça, bien sûr.
Mais j'ai vécu dans une vie où je pensais effectivement qu'on pouvait venir me liquider à chaque instant. Je sais que je n'avais aucune garantie, j'ai absolument aucune. Enfin.
Vous nous avez dit en précédant cette émission que pour vous maintenir en forme, vous regardez un miroir et vous parliez.
Ah oui, j'ai regardé un miroir, mais parce que. Ce qui est terrible, vous savez, dans cette situation, c'est le silence. C'est le silence, vous savez, d'autant plus que je n'entendais même pas les voix humaines, vous savez, je ne sais pas si c'était fait de bonne issue, volontairement, avec un but bien précis, mais mon problème, c'était ça, vous savez, c'était deux ans et demi, vous savez, dans le silence total. Alors, évidemment, Là, je me parlais.
Vous étiez surveillé
par... Et j'ai commencé à lire très haut le Coran, vous savez. Ça m'a beaucoup aidé, vous savez. Je vais prendre des sourates. Je connaissais déjà, bien sûr, le Coran. Mais j'ai beaucoup appris. J'ai presque appris tout le Coran.
Vous étiez aussi surveillé par des caméras de télévision.
Oui, j'avais des caméras.
Vous les voyez?
Non, absolument. Par la suite, j'ai deviné, vous savez. Mais c'était
fait de telle sorte que je ne peux pas.
C'est très très haut, si tu veux.
Alors, vous avez justifié.
Vous avez marié aussi en prison.
Alors, oui, alors. Jusqu'à 71, donc, c'était donc vraiment un silence de sépulcre, c'était très dur. Mmh. Et en 71, voilà, Zara qui est arrivé, bon, ça, de ma vie, c'est terminé.
Oui, madame.
Dans quelles circonstances, parce qu'en prison, c'est... Alors, dans quelles circonstances, si vous voulez, c'est un... je vais raconter quelque chose qui paraît vraiment inouï. Vous savez, ma femme était une opposante, hein, elle a été arrêtée par moi, tenez. C'était
Henri. Non, mais il n'y a pas de doute là-dessus.
Hein?
Il n'y a pas de doute.
Oui, elle a été arrêtée. Bon, elle n'est pas restée longtemps. Vous savez, elle a été arrêtée en aidant la femme de Bouddha à sauver, vous savez. Et puis un beau jour, quelqu'un vient à 6h du matin et dit, tu sais, la femme de Bouddha se trouve à tel endroit avec Zora Solani, la journaliste, etc.
Oui, c'est à votre dame, donc, journaliste.
Alors, je vous dis tout de suite, j'ai pensé, je suis qui était. Parce qu'un jour, j'ai passé sous... je passais, les gens applaudissaient, vous savez, bon. Je crois que c'est un secret de dire que beaucoup de gens applaudissaient quand je... Mais alors, je passe sous Révolution africaine et tout le monde applaudit. Je vois quelqu'un qui était comme ça, hein, qui me regardait d'un œil, me dit, moi, je n'applaudis pas. Et donc, je me suis dit, j'ai une occasion, là. Quand on m'a dit, une journaliste de l'Église africaine est arrêtée avec Madame Boudiaf, je me suis dit, c'est la fille qui était sur le...
Alors,
je reviens par la suite, donc, le jour où je me marie, même ma mère voulait que je me marie, elle m'a dit, je ne veux pas mourir avant que tu te maries, voilà.
En quoi Madame Bembella vous a été d'un secours important pour endurer ce qui est quelque chose de difficile? Et deuxièmement, est-il exact que vous écriviez en prison et que c'est elle qui sortait les manuscrits pour les cacher à l'extérieur?
Oui, ben, en quoi elle m'a été utile, vous savez, hein, elle m'a été utile dans le fait que je me suis marié, je suis devenu un homme marié et nous sommes devenus vraiment... un grand sentiment humain entre nous, vous savez, dans l'enfer, ce sentiment.
Mais je veux dire, elle partageait votre captivité.
Absolument, totalement. Elle sortait de temps en temps, ouais. Mais elle partageait mes captivités.
Les manuscrits, c'était
quoi? C'est ça, d'accord, la sortie des manuscrits. Comment
vous
les
sortez? Vous avez
pas pensé à vous échapper? Je préfère ne pas parler de ça, n'est-ce pas? Comme je n'ai pas voulu parler de. Mais c'était très difficile.
Bien, alors.
Très, très difficile.
Impossible. Venons-en, M. Bembella, donc à cette partie avec Jean-Daniel, ce que nous pouvons considérer, en tout cas instinctivement vu de l'extérieur, la...
Moi, je suis resté silencieux parce que je suis partagé entre le respect qu'on doit à quelqu'un qu'on a bien connu et qui a passé 14 ans en prison, et puis le désaccord. Ponctuel.
Non, il faut dire les choses, pas de respect.
Oui, mais ce désaccord, on n'est pas à égalité, vous venez d'une longue souffrance et je suis en liberté.
Non, mais non, je me porte très bien, je suis en pleine forme, n'hésitez pas, je ne fais pas de cadeau, je ne demande pas de
cadeau. Non, ce n'est pas des cadeaux.
Vous dites ce que vous avez à dire.
C'est une autre chose. Quand même, là.
C'est une autre chose. Je suis très bien.
Jean, voulez-vous votre
question? Non, mais quand même, si vous permettez, parce que les confrères le permettent, il y a deux ou trois petites choses que je voudrais reprendre. Quand vous tout à l'heure, les plaies ne sont pas encore complètement et totalement cicatrisées en France. Et comme vous revenez dans une sorte de, pour employer un mot très à la mode en ce moment, état de grâce, autant qu'il soit total. Quand vous avez dit millions de Français privilégiés, c'était une petite faute, je sais que vous ne le pensez pas, c'est pas exact. Il y avait à peine 80 000 colons et tout le reste, c'était des prolétaires. La preuve, c'est qu'il y a eu des municipalités socialistes, communistes, en 45, c'était le général Thubert qui était une municipalité. Et sur l'état de la population, sur l'état de l'Algérie, c'est une exactitude qui vaudrait mieux en ce moment où, vous savez, des tas de Français, fils de pieds noirs, retrouvent l'Algérie, ils sont émerveillés de l'accueil qu'ils rencontrent, je crois qu'il vaudrait mieux peut-être les infléchir et les corriger.
Je ne dis pas ça pour déplaire aux pieds noirs qui sont ici. Vous savez que dans un journal, j'ai demandé à ce qu'on les reçoive d'une façon tout à fait particulière, parce qu'ils ne sont pas des étrangers, ceux-là, comme les autres. Parce qu'ils ont emporté avec eux quelque chose. Mais non, ils en sont victimes.
Oui.
Mais ça, ils n'y peuvent rien.
Bien sûr.
Ils sont victimes, mais ils n'y peuvent rien.
Mais si j'ai réussi à vous faire dire cela, c'est...
Non, mais j'ai dit dans le monde que, par exemple, je parlais des harkis, je parlais des juifs. J'ai dit que, personnellement, je pense que...
Ni l'affaire d'Israël...
Eh bien, nous pouvons effacer le fait que les Juifs sont des Algériens depuis 4000 ans.
Quand on est en prison et qu'on assiste aux informations sur les avatars de l'idéologie révolutionnaire, tout à l'heure vous rappelez que vous l'étiez tout le temps, sur l'incapacité du tiers-monde à se gouverner soi-même, sur le fait qu'on n'a pas encore trouvé de code de développement, sur le fait que l'islam lui-même, ce qui vous a, j'étais très sensible car je ne le savais pas, ce qui a déclenché votre engagement politique, subit quand même lui aussi des avantages quand il fonctionne comme idéologie. Il était là comme en Iran au début de la belle révolution iranienne pour lutter contre l'idéologie occidentale et puis il tombe dans le travers de l'idéologie et se dévore lui-même. Comment n'êtes-vous pas arrivé à relativiser toutes ces expériences et à quelle thèse de développement êtes-vous arrivé? Parce que ce que j'ai lu est à la fois une caution que vous donnez à la révolution et à l'islam qui ne paraît pas tenir compte des derniers événements que nous avons tous vécus.
Vous, M. Daniel, vous avez l'impression de rejeter sur le tiers-monde la façon de vous poser le problème. Vous donnez l'impression de rendre le tiers-monde responsable de ses avatars. Moi, je pense qu'il est responsable dans une partie, mais que l'essentiel n'est pas là. Et la découverte de l'Amérique et l'installation d'Européens en Amérique, ce qui a conduit à la liquidation d'une race, la race rouge. Ça, vous savez, on a l'habitude, dans l'hémisphère nord, de passer très très vite sur cela. Et quand on parle de cela, on réclame une toute charité, enfin, pour le sort qui leur est réservé. Mais on ne souligne pas, c'est que ce qui est né là est né par l'assassinat d'une race. Qui est aujourd'hui d'ailleurs, mais on a le droit de vivre que dans des réserves. Dans Emmanuel, il y a quatre races, n'est-ce pas? Il y a la blanche, la jaune, la rouge. Mais il y a trois, je vois bien, hein, la noire, la blanche, la jaune, mais la rouge, ben, vous savez, hein, elle est réduite à sa plus simple expression. C'est sur cela que s'est constitué un système. Et puis par stades successives, il s'est développé, bon, l'assassinat d'une race. La traite aussi, n'est-ce pas? Avec le commerce triangulaire et la liquidation d'un certain nombre de noirs aussi. Hein. On parle, je ne veux pas discuter de chiffres, on avance le chiffre de 100 millions, mais n'y aurait-il que... Oui, on dit que lorsqu'on tue un homme et un noir, on a tué nous. Or, il y a eu 10 millions de noirs qui ont été, enfin, mis de l'autre côté, et on est arrivé à ce chiffre-là. Il est possible, je ne veux pas discuter des chiffres, mais il y a un certain nombre de millions de noirs et de dizaines de millions qui sont morts dans cette opération qui a commencé dès... D'ailleurs, l'expansion de l'Espagne et du Portugal jusqu'à la suppression de la traite en 1800 et quelques.
Vous en rendez qui responsable?
Hein?
Vous en rendez qui responsable?
Un système qui s'est installé et particulièrement capitaliste.
Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de peuples qui participaient à la traite.
Oui, je sais très bien.
Alors,
parlons-en, les Arabes, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Mais attention, hein. Alors là aussi, vous êtes très fort pour faire...
Qui vous?
Vous, c'est la presse, l'hémisphère nord.
Non,
attention. Il est fait confusion ici entre la traite et l'esclavage domestique. Tout le monde sait que l'esclavage domestique, c'est une autre affaire. Il existe depuis Rome, des blancs ont été esclaves, etc. L'esclavage domestique, c'est quelque chose. L'esclavage de la traite, c'est une autre histoire. C'est l'exploitation allant jusqu'à la mort de nombre extraordinaire de personnes qui ont servi, en somme, à créer la première accumulation du capitalisme. Alors, continuons ce que j'ai maintenant. Je voulais simplement préciser qu'il faut faire la différence entre l'esclavage domestique et l'esclavage de la traite. Et le livre a bien pour cela, n'est-ce pas? Et ensuite, la première révolution industrielle, la seconde, et un système s'est mis en place. S'est mis en place et il a été conforté par des sciences, par une science, par une technologie, par... Donc, un système s'est mis en place, c'est ce système qui existe. Je dis en notre parenthèse que ce système a eu raison de toutes les idéologies, le socialisme y compris. Ce système peut permettre qu'on le remette en cause partiellement. Et il a toujours sécrété des anticorps pour se survivre. Paul Ford qui a donné des actions à ses ouvriers, il y a eu la loi générale de Keynes. Bon, jusqu'à récemment, avant de partir, il proposait des actions aux ouvriers. Et déjà en Allemagne, c'est fait. On donne des actions aux ouvriers. Ce système fonctionne jusqu'à présent. Et ce système ne permet pas d'être mis en question. Voilà le problème. Ce système permet donc. Nous avons fait une brèche. Nous avons récupéré notre indépendance.
Alors, quelle est l'alternative?
Alors attention, il ne s'agit pas simplement de soutenir, parce que moi je pense que ce système est mauvais même pour vous. Je regrette, je pense. Ce n'est pas qu'il est mauvais, c'est pas ce que je dis qu'il refute, je le dis très sincèrement, ni les idéologies, ni les religions. C'est la biosphère. Ce système est prédateur, il est en train de polluer, mais avant la pollution de la nature, il y en a une autre qui s'installe là. Alors les deux réagissent l'une sur l'autre comme un tropisme. Voilà la réalité. Mais voilà ce qui se passe. Alors l'islam, ce qui se passe d'abord, l'islam, puisque vous parlez de l'islam, c'est pas uniquement, c'est pas l'Iran. Comme on entend. L'islam, c'est un phénomène général, c'est un phénomène, c'est notre jeunesse qui éclate, qui remplit les mosquées à raison de 80% de ceux qui vont faire leur prière. Actuellement, en Algérie, les mosquées sont construites à un rythme inouï, mais elles sont pleines. Pas le vendredi, elles sont pleines tout le temps et elles sont remplies de jeunes qui n'ont pas 20 ans. Voilà la réalité.
L'islam
est en train d'exploser en Amérique. Il y a 3 millions et demi de noirs, de black musulmans. Bon, il y a des problèmes, mais l'islam aussi, même, il est en train de bourgeonner au Japon, ailleurs en Asie, je ne parle pas de l'Indonésie, vous savez. Et même aussi, même dans l'hémisphère nord, il est en train d'acquérir un statut de religion à part entière.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le système d'oppression que, au fond, l'Occident capitaliste industriel met en place et vit même, est capable de vivre aux dépens du tiers-monde. Alors, là-dessus,
il permet que l'existence d'équipes dirigeantes qui permettent à ce système de fonctionner.
Voilà ici. J'avoue totalement. C'est pour ça qu'il y a une petite confusion, si vous voulez, où je me suis mal exprimé. Ma question, c'était ceci. Oui. Est-ce qu'en prison, je ne vous ai pas demandé si vous aviez sous-estimé ou bien réévalué le système d'oppression. J'imagine au contraire que vous l'avez surévalué.
Oui.
Mais est-ce que vous n'avez pas pensé qu'il y avait d'autres méthodes que celles qui étaient pensées à l'époque où vous êtes entré en prison, je veux dire pendant votre séjour, pour lutter contre cette domination?
Ce qui est nouveau, ce qui est important, je pense, c'est que finalement, j'ai débouché sur une idée fondamentale, je pense, qui est renversée. C'est que les problèmes de développement sont avant tout des problèmes culturels. Que la dimension culturelle doit prévaloir dans toute approche de développement. Que les constituants culturels sont importants. Que d'ailleurs, toute production économique est une production culturelle. Quand nous, par exemple, nous prenons un nouvel développement occidental, nous ne prenons pas seulement les usines, une matière froide qu'on peut utiliser ici et là, sans inconvénient. On prend des catégories, je ne vais pas discuter, sont très longues, mais surtout on prend une philosophie de la vie. Je vais vous citer un exemple, ce que peut-être qu'on ne connaît pas suffisamment. Actuellement en Algérie, mais partout ailleurs, vous avez des villages étrangers, de coopérants. Vous avez un village à Alger, je vais donner des détails, c'est un village américain. On vient vu comment ils sont, avec circuit de télévision intégré. On ne voit pas la télévision chez nous, on voit la télévision dans le. Et si encore il n'y avait que les Américains qui vivent là, ce serait pas tellement dangereux, tellement. Mais c'est que les Ariens viennent ici, tous les cadres qui ont été formés en Amérique, et ils vivent comme des Américains. Et ce sont autant, nous avons peut-être 200 villages comme ça, ou 100, qui vivent comme vraiment des micro-organismes étrangers, insérés dans un tissu, comme des corps étrangers, et qui le travaillent.
Concrètement, vous...
Dans la façon de vivre, dans...
Concrètement, vous refusez le modèle de la technologie clé en main qui est exportée sur une terre étrangère, c'est ça?
Clé en main ou sans clé en main, je recule cette technologie parce qu'elle est porteuse d'une vision de la vie qui est étrangère. Alors j'ajouterai ceci. C'est cela que nous enseignons dans les écoles. Vous comprenez? Parce que les écoles, les lycées, les universités ne sont pas des constructions extra-nulles. Elles sont conçues pour former des cadres, pour soutenir un modèle de développement. Vous comprenez très bien que ce qu'on enseigne, c'est lié directement à la forme de développement. Or, c'est ça que nous... Alors, ces écoles, eh bien, elles enseignent cette technologie qui est porteuse des catégories, notamment d'une vision de la vie qui nous est étrangère. Ce qui fait que nous portons le mal en nous-mêmes. Nous-mêmes, nous Algériens, dès l'âge de 12 ans, nous les sustentons d'une matière qui de porteur de valeur qui fait qu'à 20 ans, ils se sont étrangers chez eux. Et 16% s'en vont en Occident. Et 80% de ceux qui vont étudier à l'étranger. Voilà ce que je conteste.
Mais alors, Monsieur le Président, vous appelez en quelque sorte à réinventer le monde, mais
il faut être un petit peu plus spécifique parce que de l'islam, il y a tout de même un certain nombre de pays et de régimes qui sont très différents les uns des autres qui s'en réclament. C'est quoi ce que vous...
C'est ceci. Je ne suis pas, personnellement, je ne crois plus en un monde d'une religion, d'une philosophie, je ne crois pas ça. Je crois en l'avenir d'un monde diversifié et qui s'accepte. Tel que je crois en la différence. D'abord avec les autres peuples, mais même à l'intérieur, nous avons des problèmes. De berbères chez nous, de kurdes, il faut accepter cette différence, il faut accepter l'autre. Je pense que l'avenir, c'est l'avenir d'un monde diversifié. En ce qui nous concerne, nous faisons partie d'une ère culturelle. C'est à partir d'une définition de cette culture que nous devons nous développer. Alors de là, il résulte un certain nombre de choses. Par exemple, c'est le retour à l'agriculture, parce que notre agriculture est assassinée. Votre modèle de développement, l'une s'est retombée, c'est que l'agriculture est assassinée. Nous importons maintenant en Algérie 80% de nos céréales.
Visiblement, vous avez beaucoup d'idées pour réformer le système algérien. Alors, est-ce que la meilleure voie n'est pas essayer de revenir au pouvoir pour changer le système?
Non, le pouvoir ne m'intéresse pas. Écoutez, ce n'est pas le pouvoir qui m'intéresse, c'est ce qu'on en fait. Le pouvoir, je l'exerce, des responsabilités, je l'exerce dans toute ma vie. Je souhaite agir, mais agir à une échelle plus large, non pas seulement en Algérie, mais pour des termes, pour les... Je suis devenu... J'étais tiers-mondiste, mais je suis devenu encore davantage.
Vous voulez être un ayatollah. Oui, c'est marqué dans Jeune Afrique. L'ayatollah Ben Bella, tenez, voilà.
Oui, je sais. Non, je ne suis pas un ayatollah, croyez-moi. Je suis contre toute expression fasciste de l'islam. Je sais que cela, je sais que c'est un danger qui nous guette. Parce que cette jeunesse dont je parlais, qui refuse le modèle, eh bien, elle n'a pas d'alternative. On n'a pas encore créé chez nous d'alternative. Il faut le dire, il y a réellement une stérilité idéologique effarante. Beaucoup chez nous refusent le modèle, mais on n'offre rien. Personnellement, on ne peut pas me reprocher ça. Je ne suis pas un théoricien, je suis un homme d'action qui a réfléchi. J'ai proposé un certain nombre d'actions.
Et si la jeunesse algérienne venait vous chercher, est-ce que vous viendriez au pouvoir?
Non.
Le pouvoir national n'est pas dans vos objectifs. Moi, je suis frappé par votre analyse sur le tiers-monde, la façon de vous appuyer sur l'islam, et vous dites tout d'un coup que l'islam, c'est quand même essentiellement son renouveau, le fait des jeunes. Et je me demande si vous n'aspirez pas un rôle de leader du tiers-monde.
Non, écoutez, ce n'est pas une fonction que je cherche.
Croyez-moi,
ce n'est pas une fonction officielle. Je cherche, je pense, pouvoir agir sur un clavier beaucoup plus large vis-à-vis des pays arabes, vis-à-vis du tiers-monde, vis-à-vis de ceux qui luttent. Voilà.
Khomeini en Irak ou à Neuf-le-Château n'avait pas de fonction officielle. C'est quand même lui qui gouvernait le pays déjà.
Mais écoutez, moi je me méfie des parallèles, des analogies, etc. Khomeini, Ahmed Ben Bella, c'est autre chose. Khomeini, c'est un ayatollah. Moi, je suis un militant révolutionnaire. Je le reste.
Est-ce que vous revoir Fidel Castro bientôt?
Pardon?
Est-ce que vous avez l'intention de revoir Fidel Castro?
Peut-être que vous le reverrez, mais je n'ai pas d'intention précise. Enfin, je n'ai pas d'intention très, très précise. Moi, je suis un militant maintenant. Fidel Castro est un chef d'État, vous savez, il est tenu à certaines obligations, etc.
J'étais un grand ami de Nasser.
Vous avez connu Sadat?
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de la politique de Sadat actuelle et des accords qu'on dévide?
Je pense que c'est une politique qui ne réussira pas. Voilà ce que je pense.
Qu'est-ce que vous pensiez de la France au moment de l'indépendance? Qu'est-ce que vous en pensez maintenant?
Bien, je faisais un départ entre que c'était la France, dans ses profondeurs, entre un régime ou des régimes qui avaient fait que finalement il y avait une occupation de la France et qui, même pas pu enfin, lever cette hypothèque, je faisais parfaitement le départ entre ce qu'est la France dans ses profondeurs, ce qu'est la France dans son génie, dans ses valeurs réelles et, bon, un fait politique aussi tragique, aussi, etc. Et sincèrement, je voulais une coopération. D'ailleurs, De Gaulle, quand il a dit « il ne nous vaut pas de mal », je vous assure qu'il ne faisait que traduire une heure. Alors, je suis dans la même disposition, bien sûr. Bon, 15 années, 20 ans sont passés depuis, etc. Et puis, le blé, vous savez, les quelques nuages, etc., sont effacés maintenant, beaucoup plus. Je vous vois, moi, le français. Comment accepter le français, Ben Bella, chef de Ferlaga à l'époque? Ben, je vous assure maintenant, quand je vais dans un quartier, les gens me saluent et viennent me dire bonjour, je suis.
Alors, vous voyez que le temps passe et passe bien.
Pardon?
Comment vous réagissez aux événements français d'aujourd'hui?
Ah, la nouvelle perspective? Ben, je réagis très bien, j'ai grand espoir, comme beaucoup de progressistes, je souhaiterais que ce soit un grand moment, un moment réel, pas enfin, un moment d'enthousiasme, vous savez, comme au temps du Front Populaire. Et puis, je souhaite que ce grand moment se traduise par exemple par de nouveaux rapports avec le tiers-monde, par un engagement qui fasse sortir le dialogue nord-sud de ses ornières, parce que jusqu'à présent, le dialogue nord-sud, vous savez ce que c'est. Je souhaite donc que cette nouvelle équipe fasse quelque chose.
Vous pensez que François Mitterrand constitue un espoir pour le tiers-monde?
Je pense que la nouvelle équipe, vous savez, François Mitterrand, chez son Dreyfus, constitue une chance, vraiment constitue une chance pour le tiers-monde. Encore que je ne m'illusionne pas, il y a une voix, c'est une voix la France, il y a 8 autres voix qui ne sont pas du tout très favorables. Et voyez les déclarations de l'administration Reagan concernant le sommet de Mexico. Alors, je pense que la France peut créer, son action peut créer une dynamique qui finira par au moins poser en Europe, et je voudrais que cette Europe-là prenne conscience d'elle-même et qu'elle constitue, elle, une alternative avant de constituer notre alternative. Quant au dialogue nord-sud, je pense personnellement qu'il devrait être sud-sud avant d'être nord-sud.
Je suppose qu'il y a un nombre considérable de gens qui veulent recueillir vos confidences, des livres, des radios, des télévisions, des journaux de presse écrite. Vous faites votre première grande déclaration publique sur le sol français. Est-ce que ce n'est pas une formidable satisfaction pour le cœur, une formidable revanche pour le public que vous avez été et que vous êtes?
Non, je n'ai pas de revanche à prendre ici. Je me sens très bien. Je ne veux pas dire des choses qui sont trop équivoques. Ce n'est pas une revanche. Je suis très heureux de pouvoir m'exprimer ici. Et bien sûr, je suis très heureux de pouvoir m'exprimer sur un terrain où vraiment je ne pensais pas que je serais si bien accueilli, où il y a si peu de temps j'étais considéré comme quelqu'un qui était plutôt préférable de ne pas avoir comme partenaire, enfin, avec lequel un commerce n'était pas très très sollicité. Et je suis très heureux d'être ici pour pouvoir faire ma déclaration politique ici en France.
Monsieur le Président, je vous remercie, et dans les remerciements, il y a tout particulièrement ceux d'une équipe qui a cherché à recueillir le fond de votre pensée, l'observation de l'approfondissement de votre réflexion, ainsi que nous soulignions tout à l'heure, et puis le témoignage humain sur un homme qui, et je le dis devant les spectateurs français, quelles que soient les passions positives ou négatives que son action historique ou lui-même ait pu susciter, a gagné le mérite de l'exprimer sur la place publique, parce que la démocratie se nourrit de tolérance et d'observation, et parce que lui, il a payé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée sur TF1.